Point numéro 5, Zach du quartier de l'Amphithéâtre, compte rendu financier, monsieur Lyogé.
Merci monsieur le maire, je vais essayer de résumer ce rapport et la motion qui en découle. En vous disant que ce qui vous est proposé de voter aujourd'hui n'est ni plus ni moins que la mise en œuvre de la décision qui a été prise par l'ancienne municipalité le 1er juin 2006 de transférer la ZAC de l'Amphithéâtre, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, à la gestion de Metz Métropole. Dans cette économie générale de la ZAC, qui aussi avait fait couler en tout cas beaucoup de salive, qui représente 168 millions d'euros, vous avez le chiffre exact, 912,365, derrière ces 168 millions d'euros. Donc dans cette économie générale, dont il s'agit d'ailleurs de voter aussi l'évolution de l'actualisation de cette économie générale, de ce bilan réactualisé, à l'intérieur de cette économie générale, il était convenu que la ville rachetait un certain nombre des infrastructures qui devaient lui revenir une fois qu'elles avaient été aménagées. Donc en fait, la délibération que nous vous proposons aujourd'hui consiste évidemment à rentrer dans les détails de ces 36 millions d'euros qui consistent effectivement en le rachat par la ville de Metz des infrastructures de la ZAC de l'Amphithéâtre, et particulièrement de rentrer un petit peu plus dans les détails, puisque si auparavant ces 36 millions d'euros avaient été actés dans les délibérations de la CA2M et du Conseil municipal comme étant la participation de la ville de Metz à l'économie générale de la ZAC, nous n'avions pas encore acté les éléments plus fins du coût, notamment que pourrait représenter un certain nombre de ces infrastructures. Et je pense justement aujourd'hui aux infrastructures qui sont en train de se terminer, à savoir le parvis, les abords de Pompidou et les routes qui sont tout au droit du Pompidou. Tout cela représente en gros une somme de 25 millions d'euros, et aujourd'hui, dans cette somme de 25 millions d'euros, donc qui constitue la voirie et tout ce que je viens de dire, aujourd'hui il s'agit pour la ville de Metz d'acter, on vous demande cette délibération, une somme de 6 900 000 euros que vous trouvez dans la délibération, enfin dans la motion, plus exactement, oui c'est ça, dans le rapport plutôt, que vous voyez au point numéro 1, c'est-à-dire à la fin du point numéro 1, puisqu'il s'agit de 6 964 147 euros TTC. Donc ça, c'est le premier point qu'on vous demande d'acter. Le deuxième consiste là, dans une deuxième phase, vous savez qu'il y a effectivement ce qui est rétrocédé à la mairie, donc ce que nous rachetons, et il y a aussi les ouvrages d'art que nous sommes obligés d'effectuer, notamment sous la voie ferrée qui doit être aujourd'hui, qui a été percée, qui sera encore, et ces ouvrages d'art vont rester à la propriété de RFF, mais nous avons à engager les dépenses sur ces ouvrages d'art, et cela représente un total de 9 millions d'euros, mais pour la délibération actuelle, c'est 700 89 000 euros qui vous est demandé. Vous voyez aussi la somme qui figure dans la délibération de la motion qui vous est présentée ici. Donc, je résume. Bilan actualisé de la ZAC, délibération concernant le rachat par la ville de Metz pour 6 900 000 euros des infrastructures qui sont autour de Pompidou, et chose importante que j'ai omis de vous dire, le rachat qu'on paye à Metz Métropole des 780 000 euros aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on paye à Metz Métropole? C'est un artifice comptable, puisque Metz Métropole étant le gestionnaire de la ZAC, lui ne payera pas la TVA, et donc nous payons cette somme à Metz Métropole. C'est ce qui était convenu dans les décisions qui avaient été prises le 1er juin 2006. Voilà la motion. J'espère avoir été clair, parce que c'est vrai que la lire, quelquefois, est plus confus. Voilà, merci.
Merci, monsieur Lyogé. Alors, question. Donc, je note madame Zimmermann, madame Collin-Osterlé, monsieur Lebeau et monsieur Thiel, et monsieur Aldrin. Et monsieur Jacquin.
Et moi.
Et monsieur Jean. Eh bien, allons-y. Alors, madame Zimmermann.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, monsieur Lyogé vient de nous expliquer, effectivement, que ce soir, on nous propose un rapport. C'est-à-dire que on vient à la rescousse de Metz Métropole. Hein, et je cite le rapport, lui éviter des charges excessives et maintenir un équilibre de l'opération. Donc vous l'avez expliqué, ok. Donc vous rachetez des emprises 3 ans après les avoir confiées, alors pas vous, mais l'ancienne municipalité, hein, à la CA2M de l'époque. Sur le fond, je dirais que cette opération n'est pas contestable. Ce que je crains, par contre, ce sont les financements qui deviennent de plus en plus lourds. En effet, la ville de Metz va injecter plus de 36 millions d'euros dans ses acquisitions et les aménagements de ses entreprises, dont 25 millions dans l'immédiat. De plus, à la lecture de la note de conjoncture, ma crainte peut être justifiée quant aux perspectives entre les études, les différents honoraires, les travaux d'infrastructure. Pour l'instant, ce sont près de 23 millions d'euros qui ont été dépensés et les recettes s'élèvent à 4 millions d'euros. Je pense que ne pas me tromper. Hein. Je vous rappelle que ce sont près de 200 millions d'euros à terme qui seront nécessaires pour aménager cette DAC. Et aujourd'hui, il est clair que lorsque, normalement, alors elle doit être... je ne sais pas si elle doit être inaugurée ou ouverte au public, je ne sais pas quelle est la nuance quand on... Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est l'inauguration ou l'ouverture au public le 9 mai. Le 9 mai, c'est une très belle date. Donc, est-ce que, monsieur le maire... même si vous n'êtes pas le président de Metz Métropole, vous pouvez nous préciser ce que le président a lâché en quelque sorte dans une conférence de presse et nous a donné quelques indications. Donc j'ai une première question dans ces conditions. Qui de la ville de Metz ou de Metz Métropole supportera l'aménagement et le financement de la ZAC, donc de ces 200 millions d'euros estimés lors des premières études? En second lieu, les perspectives de la ZAC de l'amphithéâtre sont plus qu'incertaines aujourd'hui. Quid, par exemple, de la médiathèque, parce qu'il me semble que vous êtes beaucoup plus réservé aujourd'hui là-dessus. Vous lancez à présent une réflexion sur le Palais des Congrès, dont tout le monde était unanime à être d'accord sur la construction de cette structure. D'autre part, le projet du boulevard urbain de la Seille nécessite aujourd'hui des adaptations comme la trémie qui demande à nouveau un examen et une validation du maître d'œuvre. S'agissant du pavé du TCSP, le projet de l'amphithéâtre a été conçu pour mettre en avant et favoriser les transports en commun. Où se situera-t-il donc désormais avec ces nouveaux aménagements ? Le rapport précise également que les études menées depuis 3 ans maintenant n'ont pas permis de valider une faisabilité économique du projet et que la crise a définitivement mis un terme au programme de ses promoteurs qu'on disait nationaux et même internationaux. Des promesses de vente seraient en cours d'élaboration, mais à ce jour, pouvez-vous nous indiquer si au printemps prochain, alors que M. Lioger était très optimiste sur ce sujet il y a quelque temps, d'autres structures immobilières, bureaux, commerces ou logements seront en cours de construction pour l'ouverture du centre Pompidou. Quid également de l'aménagement autour du centre lorsqu'il sera inauguré? Parce que je crois que il me semble qu'une inauguration du centre Pompidou demande véritablement un aménagement. Ce sont des journalistes nationaux, internationaux, ce sont des personnalités nationales, internationales qui vont arriver à Metz et j'ai du mal à imaginer 8 mois avant l'inauguration, le centre Pompidou au milieu d'un désert. Donc comment l'ensemble de ces aménagements vont être organisés? Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier, ces questions et ces enjeux sont primordiaux. Et non seulement pour l'essor du centre Pompidou en lui-même, mais du développement économique de cette ZAC, qui est quand même le projet phare de la ville de Metz pour les 30, 50 ans à venir. Donc, il est certain que aujourd'hui, nous sommes au vrai tournant disons, de toutes les prises de décision. Et ce quartier, notamment, qui avait été conçu pour être un quartier où le Grenelle de l'environnement, mais alors, était appliqué à 100%, je dirais qu'avec tous les revirements, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les interrogations, est-ce que le jour de l'inauguration, vous pourrez toujours affirmer que, avec notamment le Bussouet, qui n'est pas du tout dans le circuit, bon, il faut un deuxième TCSP, je crois, là-dessus. Comment on fonctionne alors que ce quartier avait été conçu pour être le quartier modèle sur le plan écologique de la ville de Metz, et je dirais sans prétention, mais quand même sur l'ensemble de l'Est aujourd'hui, parce que c'était quand même un quartier d'avenir, ou c'est un quartier d'avenir plus exactement, excusez-moi. Merci, monsieur le maire.
Bien. Madame Collin-Ousterry.
Oui, monsieur le maire. J'avais demandé lors du dernier conseil municipal que la commission de suivi du quartier de l'Amphithéâtre se réunisse, puisque cela n'avait pas été le cas depuis votre élection. Alors ce soir, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons enfin obtenu une réunion de cette commission il y a une quinzaine de jours, et j'espère que nous n'aurons pas à attendre à nouveau 18 mois pour être informés d'état d'avancement de ce quartier. La mauvaise nouvelle, c'est que cette réunion m'a vraiment donné le sentiment que dans cette affaire, on pataugeait totalement. Avec une certitude, parce que c'est une certitude, le centre Pompidou-Metz sera inauguré au milieu de nulle part. Alors sur le fond, deux problématiques apparaissent. Il est tout d'abord question de revoir à la baisse la surface commerciale de cette zone, et on peut sans doute comprendre la raison de cette diminution. Mais dans quelle proportion ? Combien de mètres carrés de commerce sont-ils prévus aujourd'hui sur la zone et comment seront-ils répartis ? Il nous faut non seulement avoir une vision claire et précise de ce projet, mais aussi et surtout une stratégie d'ensemble à l'échelle de la ville et de l'agglomération. Quelle est votre vision aujourd'hui ? Quelle est votre stratégie en matière de commerce et de bureaux au-delà même du quartier de l'Amphithéâtre ? Il est également question de revoir la configuration de ce quartier, telle qu'imaginée par l'urbaniste Nicolas Michelin et votée alors à l'unanimité, donc également par vous-même, monsieur le maire. Ce qui semble aujourd'hui remis en cause, c'est cette mixité verticale commerce, bureau, logement. Et elle est remise en cause parce que le produit est certes moins facile à commercialiser, d'où une réticence que l'on peut tout à fait comprendre du côté des promoteurs et des investisseurs. Tout ceci pourrait être supportable à court terme si l'enjeu n'était pas aussi crucial. Mais le quartier de l'Amphithéâtre incarne l'avenir de l'agglomération et doit donc être ambitieux, imaginatif, insuffler une réelle dynamique de développement et évidemment ne pas rester au stade de friche. D'autant que dans le même temps, Nancy a su développer une offre immobilière conséquente pour profiter pleinement de l'effet TGV. Et surtout, ce dossier constitue un second signal assez alarmant en mettant en lumière la manière dont votre équipe municipale gère les grands dossiers stratégiques. À votre arrivée aux affaires il y a 18 mois, il se disait que les projets lancés par l'équipe précédente allaient connaître des changements notables. La place de la République, par exemple. Le projet semble être mis à l'arrêt, on imagine que vous allez le faire évoluer, puis un an plus tard, il est lancé sans aucun changement. Preuve que finalement, vous n'aviez rien à redire. Eh bien, dans le dossier du quartier de l'Amphithéâtre, c'est encore plus grave. On s'attendait à ce que vos adjoints, respectivement en charge de l'urbanisme et des affaires économiques, ayant pris la mesure des choses, proposent une stratégie de développement adaptée à la situation engendrée par la crise. Eh bien non, rien. Non seulement il a fallu vous interpeller pour que la commission de suivi se réunisse, mais encore, lorsqu'enfin elle est convoquée, rien n'y est dit, on reste dans le flou et dans l'approximation. À cet égard, on ne peut que regretter que le président de l'agence de développement n'ait encore pu ou su présenter une stratégie de développement économique digne de ce nom. Le temps presse pourtant, et les médecins ne vont pas tarder à vous en faire le reproche alors qu'ils attendent de leur municipalité qu'un projet urbain de l'envergure du quartier de l'Amphithéâtre témoigne de l'ambition d'excellence qui doit être celle d'une ville qui s'apprête à accueillir, dans un cadre architectural exceptionnel, un établissement aussi prestigieux que le centre Pompidou. Force est de constater que ça patauge, mais à force de patauger, vous allez vous enliser. Je vous remercie.
Merci. Docteur Jacquin.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le centre Pompidou va très vite pour connaître le centre Pompidou, donc se termine et il faut reconnaître qu'il va d'une part être le geste architectural que l'on attendait, donc il fera venir des gens, et, mais d'autre part, il y a quand même un point qui m'intrigue, et d'ici donc le 9 mai, c'est est-ce que les aménagements extérieurs seront terminés ? J'ai déjà attiré l'attention sur ce point.
Oui, Denis, oui.
Non, mais j'ai des doutes quand même, donc je pose quand même la question. En son temps, quand il a été décidé, il nous avait été indiqué que les bâtiments relevant de la SNCF, donc ils sont à la sortie à gauche de la sortie SNCF de la rue des Arènes, c'est le central téléphonique, l'ancien bâtiment de la CGT et autres de la SNCF, tout ça, seraient détruits, on nous avait dit dans un premier temps. Ensuite, donc, ils seraient là. Vont-ils être cachés et autres ? Parce qu'il faut reconnaître que c'est aussi hétérogène et hétéroclite comme les tribunes du FSMS, mais ensuite que c'est forlé. Et quand on sort par la rue, par la sortie de la rue aux Arènes de la gare, on voit très bien le centre Pompidou, mais on voit aussi ces verrues, parce que là, il y en a plusieurs qui sont posées donc les uns à côté des autres. D'autre part, il y a toujours à l'extérieur, toujours je parle de traitement extérieur, vous avez ces bâtiments tagués qui sont en haut de la butte de l'amphithéâtre, qui sont des halls relevant pour le nettoyage des wagons, entretien des wagons, qui sont juste en haut du talus, à l'angle du passage de l'amphithéâtre d'une part et de l'avenue de l'amphithéâtre, qui sont aussi forlés, mal masqués par la végétation. C'est quand même un problème. D'autre part, ça c'est plus facile à réaliser. Il a été demandé de garder en son temps l'ancien muret et les grilles de la gare de marchandises. Seront-ils donc réhabilités ? Et puis il y a tout cet espace extérieur. Mais on peut venir aussi à cet endroit-là par l'avenue Louis le Débonnaire. Or, l'avenue Louis le Débonnaire, à partir du centre de la rue Lautère jusqu'à la rentrée de la rue Mitterrand, la chaussée n'est pas terrible, les bas-côtés sont pas terribles, le talus donc n'est pas beau. Les deux petits espaces verts qui sont situés au coin de l'avenue Louis Débonnaire et de la rue François Mitterrand, un vient d'être, je dirais, caché par des pierres, mais interdit de stationnement par des pierres. L'autre ne l'est pas, mais c'est mal aménagé. Et lundi soir, j'ai pu voir en particulier, pour la première fois, et c'était dans un parking VIP, des voitures qui aurait dû stationner sur l'avenue Louis Débonnaire, qui était stationné sur les pelouses du parc de la Seille. C'est la première fois que je vois ça. Et j'avoue que l'engouement provoqué par Pompidou risque de voir ce genre de phénomène donc s'aggraver. Et le côté esthétique aussi est extrêmement important. Donc ce que je souhaiterais, monsieur le maire, c'est ce soir être assuré. Votre adjoint vient de dire à l'instant oui. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que ce soit terminé la veille, c'est que des endroits qui vont être engazonnés ou autres nettoyés le soient quelques jours donc auparavant. Puis ma deuxième question concerne justement ce que Mme Zimmermann vous a dit. Le 9 mai, le plus souvent, il est écrit « ouverture au public ». Ouverture au public et inauguration, c'est totalement différent. Dans la presse ce matin, on parle d'inauguration, les autres fois, c'est ouverture au public. Donc, est-ce que l'ouverture au public et l'inauguration auront lieu au même jour ? Est-ce que ça a lieu à deux dates différentes ? On va avoir beaucoup d'invités extérieurs, on va avoir de la presse nationale et internationale donc qui va venir. Or, il va y avoir des problèmes d'acheminement pour certains vers Metz, parce que le 9 mai, c'est le moment du 8 mai, c'est deux jours fériés. Le 9 mai est un dimanche, le 8 mai est un jour férié. Or, vous savez que ces jours-là, il y a moins de TGV que d'habitude et moins de lignes SNCF qui fonctionnent ces jours-là. Il n'y a pratiquement aucun avion à Metz-Nancy-Lorraine et il y en a nettement moins aussi à Luxembourg sur l'aéroport du soir. Donc, il va y avoir des problèmes pour des invités extérieurs pour venir, sauf s'ils viennent 3 ou 4 jours à Metz ou s'ils sont invités. Mais je me pose des questions. Il faut que pour l'ouverture du centre Pompidou, tout soit parfait extérieurement et que les gens puissent venir à Metz dans des conditions, je dirais, décentes.
Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, avant l'été, vos deux lieutenants, messieurs Lieuger et Jean, s'étaient engagés à faire en sorte que la halle, qui doit se trouver sur le parvis du centre Pompidou-Metz, soit réalisée pour l'inauguration, le 9 mai 2010, et que le permis de construire soit déposé avant la fin de l'été. L'automne est là, et nous sommes comme sœur Anne. Nous ne voyons rien venir. J'ai peur, monsieur le maire, parce que, comme le dit si bien le docteur Jacquat...
C'est moi, Barbe Bleue.
J'ai tout de même peur que les blocos qui sont des sorties de parking sur ce parvis ne soient pas cachées par la halle sur le côté gauche. Aujourd'hui, à la lecture de ce rapport, on peut être également effrayé, tant sur le constat fait par le groupement de promoteurs nationaux et internationaux, qui aboutit à l'infaisabilité économique du projet des îlots A2, B2, B3, que de l'effet de son constat, monsieur le maire. Quel est l'effet du constat? Il est simple. Si on regarde le budget qu'a évoqué votre adjoint, monsieur Lioger, 168 millions de budget total, ce qu'il a oublié d'évoquer, c'est que dans les parties recettes, il y a 78 millions de droits à la construction liés à la promotion des îlots. Si les plus beaux îlots, qui sont le A2, le B2 et le B3, ne trouvent pas de promoteur, on peut se poser des questions sur les autres îlots. Monsieur le maire, comme je vous ai précédemment dit, vous adorez vous comparer. Et là, nous allons faire encore un regard sur le Luxembourg et sur Esch-Belval. Là aussi, il y avait une volonté de créer un quartier du 21e siècle, moderne. Là aussi, le projet était complexe, difficile. Mais là, le pari est réussi, puisque les premiers habitants vont habiter. Et on pourra toujours me dire plein de choses, mais monsieur Lioger sait bien que les droits à la construction sont sans commune mesure beaucoup plus élevés que ceux demandés pour le quartier de l'amphithéâtre. On n'est pas dans l'échelle du simple au double. Monsieur le maire, à la lecture de cette motion, j'ai une crainte, c'est que je ne retrouve pas le prix du droit à la construction de l'IDO A2. Alors peut-être que pour arriver à trouver un promoteur, il n'est nullement indiqué dans cette motion la valorisation des droits à la construction de l'îlot A2. Peut-être que la volonté est de ne pas en percevoir et coûte que coûte de trouver un promoteur. Sans doute, peut-être, soit une mauvaise lecture, soit une omission. On a vu que les omissions sont un acte volontaire. Mais j'aimerais que vous me répondiez sur cette question. Je vous remercie, monsieur le maire.
Merci. Monsieur Aldrin. Monsieur Aldrin n'a pas demandé la parole? Monsieur Thiel, à ce moment-là.
Oui, il a demandé la parole, mais vous l'aviez inscrit après. C'est pour ça qu'on avait un petit moment d'hésitation.
Non, j'ai donné la parole à monsieur Aldrin. Vous ne voulez pas la parole, monsieur Aldrin, si. Vous m'avez dit. Hein. C'est pas vous qui désignez, c'est moi. Vous voulez la parole, allez-y.
Bon.
Nous vous écoutons, bon,
monsieur le maire.
Thiel.
Monsieur le maire, s'il faut qualifier...
C'est le roi. C'est le roi qui fait beaucoup mieux que ça.
Oh, allez-y, monsieur Aldrin.
Je peux y aller?
Oui, oui, je vous ai déjà dit deux fois.
Bon, ben je vais essayer. Ça. Bon, monsieur le maire, s'il fallait qualifier la gestion du dossier de l'amphithéâtre m'indigne nouvelle municipalité socialiste, je pense qu'on pourrait qualifier de gestion floue et par conséquent d'inquiétude grandissante pour les Messins.
Socialo-communiste, Aldrin.
Entre les dents.
Allez-y, allez-y. Donc la majorité socialo-communiste est verte.
Et
un tantinet orange, effectivement.
Laissez continuer, monsieur Aldrin, sur son sujet.
Donc, la gestion floue et l'inquiétude qui naît sur ce dossier. Alors, floue, car d'une manière générale, monsieur le maire, on ne voit pas quelle est votre vision pour ce quartier, d'une manière simple. Est-ce que vous allez remettre en cause ou pas le projet initial qui était de la mixité bureau, commerce, logement? Quels sont les équipements que vous voulez y mettre? Flou, car on ne voit pas également quel rôle joue la toute nouvelle et dispensieuse agence Metz Métropole. Mais bon. Flou, car d'une manière générale, il est acté que malheureusement le centre Pompidou s'ouvrira avec un désert autour de lui. Alors, de ces zones d'ombre naissent l'inquiétude et pour y remédier, le meilleur des remèdes est quand même la transparence. Alors, je ne doute pas que vous allez être attentif à la demande que j'aimerais modestement vous formuler. Vous avez organisé récemment plusieurs réunions d'information avec les médecins à Queuleux sur la ZAC des Coteaux de Seille. Plus récemment, nous nous sommes vus à la Patrotte, et nous nous y reverrons, je pense. Et je souhaiterais, pour les médecins qui regardent avec un œil inquiet ce projet, qu'il y ait une réunion d'information où tous les sujets soient mis sur la table et qu'on sache précisément où nous en sommes. Tout simplement, monsieur.
Merci. Monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire, merci beaucoup. Et chers collègues, beaucoup de choses ont été dites et je crois d'ailleurs que sur ces bancs de l'opposition, tout le monde fait le même constat. Alors moi, je vais être nuancé et puis après peut-être un peu plus radical. D'abord, il y a quelque chose qui fonctionne formidablement bien sur la ZAC de l'amphithéâtre, permettez que je le dise, c'est la construction de Pompidou. La construction de Pompidou a été annoncée en 2003, nous sommes aujourd'hui en 2009. Je signale quand même que Lens, qui a été le Grand Louvre, n'est-ce pas, la décentralisation du Grand Louvre à Lens, a été annoncée au même moment par le ministre Jean-Jacques Ayagon, et que la première pierre n'a pas encore été posée. Le musée Confluence de Lyon est antérieur en projet à la décentralisation du centre Pompidou ou de Lens, et n'a pas encore posé sa première pierre. Donc je voudrais quand même qu'on ait, de ce point de vue, un regard objectif et dire que le chantier Pompidou avance très bien, que l'ensemble est extrêmement satisfaisant et il faut dire qu'il a été mis sur rail, mais que ceux qui le conduisent aujourd'hui le conduisent aussi avec la même fermeté, la même exigence. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et je le dis ce soir
avec Fonté, ce qui est Antoine Fonté d'ailleurs.
Voilà. Et je le dis ce soir avec d'autant plus de plaisir que je voudrais saluer votre initiative personnelle de confier la présidence d'honneur du Centre Pompidou à celui-là même que tout le monde reconnaît comme étant celui qui l'a instigé et qui a été le premier. Je veux parler de Jean-Marie Roche, dont on soulignera ce soir qu'il fête ses 80 ans. Et donc en lui faisant ce gentil clin d'œil. Mais le Centre Pompidou, et c'est là que je vais être plus radical, est à la fois un grand projet culturel, et c'était un levier de performance économique pour notre ville. Et le centre Pompidou, à lui seul, ne peut être complètement le vecteur économique. Bien sûr, nous sommes certains que des gens vont venir voir l'excellente première exposition, voire la seconde, voire la troisième, et on le souhaite. Mais ce qui est attendu des acteurs économiques messins, c'est que ceux qui viennent visiter ces collections ne se contentent pas d'arriver à la gare toute proche et de reprendre le train pour rentrer à Toulouse, à Lille, via Paris ou pas. Ce qu'on attend, c'est que, comme vous, comme moi, ils viennent visiter la cathédrale, ils irriguent le centre-ville, et donc que le conduise la réflexion urbaine pour que, de la place Mazel, en passant aussi par la gare, la place Raymond-Mondon, etc., on soit conduit vers le centre-ville. Des efforts avaient été faits sur ce plan urbanistique, permettez-moi de le dire, par l'ancienne municipalité qui avait déjà prévu ses voies. Il en restait à retravailler, comme la place Mazel, mais l'essentiel est fait. L'avenue Gambetta, la rue Harel, la place de la République, même si on a pris beaucoup de retard sur la place de la République. Mais à compter de ça, il faut naturellement qu'il y ait les grands équipements. La grande halle, elle est prévue depuis très longtemps. Le palais des congrès, il a une chance extraordinaire. On disait à un moment donné, le palais des congrès doit être proche des gares. Il est en plus proche d'un équipement culturel majeur. C'est une formidable carte. Et on disait, oui, mais Nancy va refaire aussi son centre des congrès. Il semblerait que là-dessus, il y a un peu de retard. Alors ne nous réjouissons pas du malheur de notre ville sœur, mais néanmoins, ça garantit, ça conforte les chances de la ville de Metz d'avoir très vite ce palais des congrès. Enfin, permettez-moi de vous dire qu'il faut aussi un hôtel pour que les Américains, les Hollandais, enfin tous ceux qui vont venir ici à proximité du centre Pompidou, eh bien puissent avoir un grand équipement hôtelier. Qu'est-ce que nous constatons à cet égard, monsieur le maire? c'est que quoi qu'en dise votre adjoint premier, tous les dossiers
il
étaient
pas
prêts.
Il n'a pas encore parlé, hein.
Tous les dossiers étaient prêts.
C'est faux, faux, faux.
Tous les dossiers étaient prêts et je vais donner ce soir la cause de votre retard. La cause de votre retard, premièrement,
c'est vous.
C'est cette volonté toujours extraordinaire de tout remettre en cause qui s'est fait dans le passé. Et donc on a assisté à une grande réflexion, voire même à des discussions entre le président de Metz Métropole et vous. Parce qu'on a remis en cause l'emplacement du Palais des Congrès, parce qu'on a remis en cause l'emplacement de la médiathèque, parce qu'on a remis en cause et on n'a pas répondu aux hôteliers, y compris ici, Messin, qui voulaient rentrer en contact avec vous et qui n'ont jamais eu le contact. Et des hôteliers me l'ont dit. Ça veut dire que vous avez pris le temps de la réflexion, à la limite, et vous avez d'ailleurs profité de mettre, pas vous mais d'autres, le haut fonctionnaire qui était chargé des contacts avec les promoteurs, les contrats prêts à signer quand ils ne l'étaient pas, au placard. Voilà exactement les raisons de ce temps de réflexion qui, comme l'a si bien dit Nathalie Collin-Osterlé tout à l'heure, a été le même pour la place de la République, qui a accouché d'une réflexion où, à part le TSP, enfin je veux dire le nouveau Bussouet, il n'y a aucun changement. La Nathalie et moi, nous étions à la commission. La commission du suivi de l'amphithéâtre, avant, se réunissait au moins une fois par mois. Là, il a fallu 18 mois pour attendre qu'elle se réunisse. 18 mois parce qu'il y a eu des réflexions, parce qu'on a tout remis en cause. Votre premier adjoint s'est pris complètement les pieds dans ce que Nathalie Osterlé a considéré comme étant un peu un pataugeage. Et nous avons eu les vraies informations par votre directeur de l'urbanisme, permettez-moi de vous le dire. Or, qu'a dit le directeur de l'urbanisme qui a porté le point de vue de la technique? C'est que finalement, rien n'était remis en cause. Ni l'emplacement du Palais des Congrès, ni celui de la Grande Halle. L'hôtel, bon, on en a moins entendu parler. Mais en gros, rien n'était fondamentalement changé. Un doute subsiste sur ce que nous avions tous à cœur de faire, c'est-à-dire cette mixité urbaine entre commerce, bureaux, équipements commerciaux et logements. Mais d'après les informations que nous avons eues, ce n'est pas non plus remis en cause. Donc la seule chose sur laquelle il y a un point d'interrogation, avec lequel on est même d'accord avec vous, parce que les circonstances ont un peu changé, le départ des militaires, la crise économique, c'est une éventuelle réduction des surfaces consacrées au commerce. Voilà la vraie vérité. Rien n'est changé dans le projet, et on est plutôt content, sinon une adaptation aux circonstances conjoncturelles des surfaces commerciales à implanter, avec lesquelles on peut être complètement d'accord avec vous. Alors, ce temps de la réflexion, ce rien faire, si vous me permettez, pendant 18 mois sur ce chantier, a aussi une autre explication, qui est très simple. Marie-Josée Hammermann, tout à l'heure, disait « c'est quand même un projet de 200 millions ». Mais il y en a un autre des projets qui est aussi de 200 millions. C'est le Bussouet, le Métis. Et moi, ce que je soupçonne pour avoir eu l'engagement du président de Metz Métropole il y a à peu près un an au moment des transports en commun, que ce n'était pas encore fait, qu'il fallait être prudent et qu'on verrait bien, avant que, évidemment, vous ayez finalement raison dans ce dossier, qu'il soit adopté, eh bien le Métis, c'est aussi un projet annoncé à 160 millions d'euros et qui finira à 200 sans doute. D'ailleurs, je note, monsieur le maire, qu'il y a pas quelques minutes, vous disiez, d'ailleurs, alors je me dis, tiens, il nous rejoint, j'ai quelques doutes sur les projets qui dépassent les 150 millions d'euros. Hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne le Grand Stade. Ben, permettez-moi de dire, j'ai quelques doutes sur votre projet de 160 millions d'euros qui est le transport en commun Métis. Non pas, monsieur le maire, non pas, monsieur le maire. Non pas, monsieur le maire et les membres de la majorité municipale qui manifestent qu'il ne faille pas améliorer les transports. Non pas qu'il ne faille pas le faire. C'est pas ça que nous disons. Nous disons que les dossiers et les finances devaient, dans un premier temps, être consacrés à la réussite de la ZAC de l'amphithéâtre et de ses premiers investissements. Pourquoi ? Parce que grâce à ces premiers investissements, nous allons avoir un rapport financier. Il va y avoir de la taxe foncière, il va y avoir des taxes professionnelles qui vont rentrer. qui aurait davantage facilité ensuite le projet qui vous tient tant à cœur qui est le Métis. Enfin, je voudrais enlever une erreur qui a été donnée par le courrier des lecteurs qui consisterait à dire qu'à Bilbao, il n'y a rien autour du musée Guggenheim. C'est faux! On nous invite à y aller, mais nous y sommes allés en 2003. Et vous savez que nous avons vu Bilbao. D'ailleurs, Denis Jacquat et moi, nous étions du voyage. Et savez-vous où nous avons déjeuné? Au Palais des Congrès, qui se trouve à côté du centre Guggenheim. Alors, arrêtons de dire que Bilbao s'est développé dans un désert et que ce n'est pas un problème si c'est un désert autour du centre Pompidou-Metz. C'est une erreur. C'est faux de dire ça. Et d'ailleurs, je tiens à votre disposition toutes les photos nécessaires. Alors, voyez-vous, monsieur le maire, il y a dans cette affaire beaucoup de rien faire. Mais il y a aussi trop de laisser faire. Parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Nicolas Michelin. Nous l'avons tous choisi ensemble. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce projet urbaniste écologique est absolument admirable. Mais quand il nous plante des sorties de parking, les unes devant être cachées par la grande halle, alors on comprend, elle n'est pas faite, bien. Puis Emmanuel Lebeau s'est exprimé là-dessus très bien. Mais qu'on constate qu'en face, il nous a fait les mêmes sorties de parking qui, elles, n'ont jamais été prévues cachées et qui n'en avaient jamais été prévues du tout, je dis que là, il y a du laisser faire. Et qu'il faut tenir ces architectes, il faut tenir ces urbanistes, et que c'est scandaleux, vous m'entendez, d'avoir ces excroissances de sorties de parking, alors que partout dans le monde, quand on veut faire un peu d'esthétique, eh bien, on sort avec quelques escaliers enterrés, et que là, au moins, on a une vue dégagée. Donc, trop de rien faire, trop de laisser faire. Alors, on espère, monsieur le maire, que toute l'opposition unie ici, et puis je crois aussi qu'il y a un certain nombre d'enjeux économiques et que des voix s'élèvent aussi de ce côté-là, eh bien, boosteront un peu les choses pour que le projet Pompidou soit réellement accompagné du point de vue économique pour assurer le développement de la ville de Metz.
Dirigeant.
Merci, monsieur le maire. Je suis démocrate. Sinon, je dirais que le suffrage universel semble dispenser à la fois de pertinence, de compétence et de bonne foi. J'ai entendu un certain nombre de choses complètement effarantes. Alors, j'ai demandé la parole parce que ça a été dit par plusieurs orateurs. La ZAC de l'amphithéâtre, c'est un enjeu économique majeur. Et c'est pour ça que nous copilotons le dossier, Richard Lieuger et moi, lui pour ce qui concerne l'urbanisme et l'aménagement, moi pour ce qui concerne le développement économique, et nous le faisons de manière transversale à la ville de Metz et à Metz Métropole. Alors, si je résume, tout était prêt, mais on aurait donc, si j'ai bien compris, on a mis au placard le mec qui devait signer côté ville de Metz, et puis les promoteurs ont fui. Hein, ils ont fui l'arrivée de la gauche, hein, et c'est un phénomène qu'on connaît, c'est pour ça qu'il n'y a plus de promoteurs à Paris, à Lyon, à Lille, à Strasbourg. Ils sont obligés de se réfugier à Neuilly, à Sarrebourg, à Voipy. Si, où on les accueille, où on les accueille. On les accueille.
On va en parler, Michel Valls, on va en parler.
Monsieur Lebeau, merci de laisser parler Monsieur Jean, s'il vous plaît.
Voilà.
Merci de laisser parler Monsieur Jean.
Alors, le phasage du projet est intéressant et il y a une preuve, hein, comme lorsqu'on fait des fouilles, il y a une preuve que le projet n'avance pas au rythme initialement prévu, puisqu'il y a un parking qui a pas mal de difficultés à trouver son équilibre financier, c'est un euphémisme, qui a été construit, et je peux vous assurer que les gens qui l'ont construit ne l'auraient pas fait si on leur avait dit qu'ils seraient seuls si longtemps. D'accord ? Donc, effectivement, il y a un petit souci. Un petit souci, il remonte à mars 2006, d'accord ? Lorsque on a attribué, je dis on, c'est un on générique, hein, février 2006, ça a été annoncé au MIPIM, c'est pour ça que je dis mars, mais bon, où M. Nazérolas a fusionné, alors M. Nazérolas disait toujours, il était assis à la place de Richard Lieuger, il disait toujours qu'il était envahi de promoteurs, il était tellement envahi de promoteurs que de deux projets, il en a fait un, et d'un groupement de quatre qui est, et les professionnels le savent, déjà assez difficile à gérer, il en a fait un groupement de huit. D'accord ? Bon. Et, alors ce groupement de huit aurait pu fonctionner, il aurait pu se donner à peu près un an pour réaliser les études nécessaires. Ça nous amenait à un permis de construire déposé à peu près un an plus tard, hein, donc là on est au printemps 2007, hein, ça permet de démarrer les travaux début 2008, et on finissait avant de sentir les effets de la crise. Et ça, ça aurait été bien. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je vous renvoie la question. Vous étiez adjoint au maire, monsieur Thiel, et vous participiez à des réunions d'exécutifs où ces choses-là ont peut-être été expliquées. Mais en tout cas, il y a eu effectivement, dans le phasage du projet, un retard. Alors, nous avons nos explications, évidemment. Ce n'est peut-être pas les bonnes, mais c'est un groupement difficile à piloter. La mixité à l'échelle d'un quartier est quelque chose de vital. La mixité à l'échelle d'un immeuble, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Je ne le développerai pas, mais bon, Richard pourra le faire techniquement, mais aussi économiquement. Alors, le dossier qu'on a trouvé, d'abord, il faut savoir qu'il était, non seulement il n'attendait pas la signature, mais il était signé. Le problème, c'est qu'il était signé, je l'ai déjà dit, avec un engagement unilatéral de la SAREM mandataire de la ville de Metz et de l'agglomération, et que jusqu'au 8 mars 2009, donc il n'y a pas si longtemps, eh bien, on était face à ce groupement dont un investisseur d'ailleurs s'était retiré, et ce n'est qu'au printemps de cette année qu'on a pu engager un dialogue différent avec d'autres gens. Alors, on n'a jamais dit que le permis de construire allait être déposé avant la fin de l'été. On a dit que le promoteur serait choisi, aussi bien Richard Liogé que moi, on a dit que le promoteur serait choisi avant la fin de l'été. Nous avons quelques jours de retard. La fin de l'été, c'était il y a 3 jours. Bon, laissez le président de l'agglomération et le maire de Metz annoncer ensemble ce qu'il en est. C'est une question de semaine. Point. J'en dirai pas plus, même sous la torture. Bon. Donc, ça avance. Tout va bien. Je laisserai aussi Richard répondre sur les droits à construire, mais l'accusation de brader les droits à construire de la ZAC de l'amphithéâtre, elle est très moyenne. Vraiment, hein. Et encore, j'emploie le terme de moyen parce que quand j'emploie des termes qui sont plus sincères, ça... Alors, il y a eu par contre des questions pertinentes et je vais y répondre. Alors, quelle est notre vision de ce quartier d'un point de vue économique? Il est clair que ce quartier est ce qui doit apporter le plus de valeur ajoutée au cours des 30 prochaines années. Parce que c'est évident que, du point de vue économique, il n'a jamais été... je me rappelle, j'avais un jour posé la question à André Nazérolas, et je lui ai dit, mais attention, c'est un projet énorme par rapport au marché de bureaux à Metz. Oui, c'est un projet considérable, mais c'est vrai que, étalé sur 25 à 30 ans, le marché peut parfaitement l'absorber. Et donc, je réponds à Nathalie Collin-Osterlé quant à notre stratégie en matière de bureaux. Ben, on peut difficilement avoir une stratégie volontariste en matière de bureaux. En matière de bureaux, il faut répondre au marché, hein. Le marché, c'est tous les ans un certain nombre de mètres carrés de neuf et un flux normal de mètres carrés d'anciens et d'anciens rénovés. En matière commerciale, c'est vrai que j'ai jamais caché mon point de vue. Je ne pense pas qu'il faille faire du quartier de l'amphithéâtre un pôle d'attraction commerciale spécifique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de commerce sur l'amphithéâtre, mais je pense que l'élément d'attractivité de l'amphithéâtre, je pense qu'on en conviendra tous, pour les 15-20 ans à venir, c'est Pompidou, d'accord? Bon, et donc autour de Pompidou, il faut mettre des activités qui sont liées à ce type d'équipement. Bon, il faut évidemment de la restauration, il faut sans doute des galeries d'art, il faut ce qu'il faut dans un quartier fortement touristique. Il faut ce qu'il faut dans un quartier où des gens viendront travailler et il faut ce qu'il faut dans un quartier où des gens vivront. Je ne crois pas que le quartier puisse attirer spécifiquement des gens et dans tous les dossiers qu'on a vu passer à l'époque où les promoteurs disaient on va faire 30 000 mètres carrés de commerce, on va spécialiser ça dans l'équipement de la maison. Et je l'avais dit un jour à l'un des promoteurs, le mec qui va venir de Düsseldorf visiter le Pompidou le matin et acheter le lit du gamin l'après-midi, celui-là, on le reçoit à la mairie, quoi. Hein. Donc il faut quand même être sérieux. Hein. Un centre commercial avec un prix du mètre carré qui n'a rien à voir avec ce qui se fait en périphérie, avec du parking payant, ça n'a pas la même fonction qu'un centre commercial à l'extérieur. Et quant à nos stratégies en matière commerciale, elles reposent sur le principal pôle de la ville de Metz, c'est le centre-ville. C'est peut-être évident, mais encore faut-il le répéter. Hein, c'est l'attractivité du centre-ville qu'il faut renforcer. Et pour être sur un des... Comme il y a eu une intervention très longue, il y a même des points où on est d'accord avec lui. Quand Patrick Thiel dit il faudra que les gens qui viennent visiter Pompidou, on trouve le moyen de les faire aller au centre-ville. Oui, bien sûr, et on est preneur d'idées. C'est indispensable, parce que sinon le lien ne se fera pas. Alors, quels sont les moyens économiques de valoriser Pompidou, ou quels sont les moyens de valoriser économiquement Pompidou? Ben, le premier d'entre eux, c'est le Palais des Congrès. Hein, le Palais des Congrès a été quasiment fini, hein, lui aussi. Moi, j'ai rien trouvé. Hein, donc, soit vous n'étiez pas ordonné, soit vous souvenez pas de tout. En tout cas, comment? Il y a une bonne mémoire. Bon. Alors, il faudra qu'on se parle pour qu'ils me disent où les dossiers étaient rangés, parce qu'on les a pas trouvés. Bon, non, le Palais des Congrès, il était dit au cours du mandat précédent qu'il fallait peut-être en faire un. Quand on est arrivé, il n'était pas au plan d'investissement de la ville, il n'était pas au plan d'investissement de l'agglo. Alors peut-être que le mec qu'on a mis au placard, il allait nous en faire cadeau, mais comme on ne sait pas de qui vous parlez, là non plus, vous nous laissez un peu démunis. Non, le Palais des Congrès, c'est un dossier sérieux, c'est indispensable. Effectivement, il faut mettre un Palais des Congrès adossé à la gare et face à Pompidou, et c'est le seul moyen d'avoir une valorisation directe de Pompidou. D'accord? Sinon, on court un risque, c'est vrai, on va pas se le cacher. Je pratique pas la langue de bois. On court le risque qu'il y ait des gens qui viennent en TGV, qui visitent l'expo, hein, qui boivent un café, qui achètent un journal et qui se barrent. D'accord? Ce risque-là, effectivement, il faut qu'on y travaille. Le Palais des Congrès, c'est nécessairement une présence de 2 jours. D'accord? Une présence de 2 jours, ça veut dire autant de nuitées qu'il y a de congressistes dans l'année. Ok? Donc, il faut aussi faire des hôtels, monsieur Thiel. Et nous aussi, on voit les hôteliers. Ne vous inquiétez pas. Et là non plus, il n'y avait pas de projet. Hein. Donc, le Palais des Congrès, j'espère, c'est pas le lieu, parce que ce sera vraisemblablement une maîtrise d'ouvrage Metz Métropole, mais j'espère que, avant la fin de l'année, on pourra vous présenter un montage financier. Hein, on y travaille depuis à peu près un an, parce que moi je défends ce dossier depuis un an. J'ai été très vite entendu ici. Pour d'autres élus de l'agglo, c'était un peu plus compliqué, un peu moins prioritaire, d'accord. Je crois aujourd'hui que on a fait un travail qui nous a amené, non pas à convaincre tout le monde, on ne convainc jamais tout le monde, mais je crois que beaucoup de gens ont compris que le Palais des Congrès, c'est l'enjeu majeur des 3 à 4 prochaines années pour créer de la valeur sur le quartier de l'amphithéâtre. Oui, en ce qui concerne Bilbao, la vérité est sans doute entre les deux. Alors, vous évoquez le courrier des lecteurs. Hein, le monsieur qui a écrit le courrier des lecteurs, il n'est pas dans la majorité municipale. Oui, on l'aime bien, mais il n'est pas dans la majorité municipale. Et puis, Bilbao, faut reconnaître quand même que 10 ans après, les alentours de Guggenheim, c'est un peu décevant. Cela dit, c'est vrai, ils ont un palais des congrès. Ils ont un palais des congrès qui fonctionne bien. Et ils ont des chiffres que je rappelle, parce qu'ils laissent rêveur quand même. Hein, je ne sais plus si c'est je ne sais plus quel cabinet leur avait dit en dessous de 500 000 entrées à Guggenheim, vous allez vous planter. La première année, ils ont fait 1,3 million et ils caracolent entre 700 et 800 000 entrées depuis. Donc, ça veut dire que le pari est réussi. Même si moi aussi j'ai des photos, les alentours, on fera mieux en toute hypothèse à Metz. Et pour terminer, alors j'ai promis. Que nous présenterions avant la fin de l'année civile, donc avant le 31 décembre, un projet de schéma de développement économique. Il sera soumis au Conseil de la communauté d'agglomération et il sera ensuite, s'il est adopté, il sera ensuite édité. On en fera un petit bouquin qui sera diffusé à qui veut, hein, parce que c'est un... Bon, on vient de terminer la première phase, qui est la phase de diagnostic. On apprend déjà pas mal de choses et on aura une connaissance économique de notre territoire qui nous permettra de travailler pendant 1, 2, 3, voire 4 mandats. Donc, pas de souci. Pas de souci pour l'avenir, hein, ni à court ni à moyen terme. Voilà. Et voilà. Et je m'arrêterai là. Je vous remercie.
Alors la parole...
Ah non, mais ça va être très long. Je crois qu'il va falloir vraiment que vous armiez de patience, parce que... Merci, monsieur le maire, de me donner la parole.
Monsieur le juge.
Ce que j'ai entendu là dépasse toutes les bornes. J'avais dit un peu dans la presse, de manière un peu provocante, que monsieur Thiel allait atteindre la stratosphère. Là, c'est carrément la Lune qu'il est en train d'atteindre. C'est absolument une grande opération de rhétorique qui est chargée de masquer ni plus ni moins que la totale incurie dans laquelle vous avez mis la ZAC de l'amphithéâtre pendant 3 ans. Je le dis et je vais le montrer et je vais le démontrer point par point et je serai
assez. Si vous voulez bien écouter, monsieur Lioger, s'il vous plaît.
Premier point, monsieur Thiel. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la fameuse commission de l'amphithéâtre que nous n'avions pas réunie et que vous réunissiez une fois par mois. Je me suis tourné vers l'administration et je lui ai demandé de me sortir les dates de réunion depuis 2001. Parce que cette ZAC de l'amphithéâtre, elle existe depuis 2001. C'est-à-dire qu'en fait... Non mais, attendez. Vous travaillez sur cette ZAC de l'amphithéâtre depuis 8 ans. D'accord ? Première réunion de la ZAC de l'amphithéâtre, 21-9-2001. Deuxième réunion, 30-04-2002. 28-11-2002. Troisième réunion. 27-03-2003. Quatrième réunion. 13-06-2003. 1, 2, 3. Cinquième réunion. Sixième réunion. 24-06-2004. 30-09-2004. 29-06-2006. Et enfin, 12-12-2007.
Aucune en 2005. Hein.
Et aucune en 2005. Ça veut dire que... Là, je comprends mieux. Je comprends mieux comment vous travaillez dans l'ancienne municipalité. Si ça, c'est une fois par mois, je comprends que la ZAC de l'amphithéâtre, elle n'est pas avancée. Je comprends que la ZAC de l'amphithéâtre n'est pas avancée.
C'est moins de 2 fois par an. C'est
vous
une
l'avez
fois et
rappelé
par
ici. Hein. Bon. Écoutez, vous empilez les mensonges, vous empilez les contre-vérités, et vous nous avez mis dans une situation qu'effectivement nous essayons de débloquer. Et je pense que, comme le disait Thierry Jean tout à l'heure, nous laissons le maire et le président de la CA2M faire les annonces dans les jours qui viennent sur ce que nous allons faire et sur ce que nous allons signer. Oui, il est temps. Il est temps, il a été temps de rattraper votre retard, monsieur Thiel. Il a été temps, 2001, le début de la ZAC de l'amphithéâtre. Thierry Jean l'a rappelé tout à l'heure, j'ai la lettre de monsieur Nazerola qui, effectivement, donne à l'ensemble de groupements, je ne vais pas le répéter, 23 février 2006. Pendant 2 ans, vous n'avez rien fait. Vous avez admis vous-même dans la presse, si, vous avez fait une chose, une maquette. Ah, ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette commission de l'amphithéâtre? Vous faisiez des Legos pour faire une maquette? 2 ans pour travailler sur une maquette. Mais ce qu'on a trouvé... Outre ce que vient de dire Thierry Jean, qu'est-ce qu'on a trouvé? On n'a trouvé aucun plan, aucun développement économique, aucun chiffrage. La presse peut tout à fait questionner les gens de la SAREM, questionner Nicolas Michelin, questionner y compris les promoteurs, pour savoir qui dit vrai dans l'affaire. Vous n'avez rien fait pendant tout ce temps-là, sauf une maquette, effectivement, une belle maquette, ça c'est clair. Elle est très belle, mais il n'y avait aucun chiffrage économique, aucune faisabilité sur un projet, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est un très beau projet intellectuellement. Nous l'avons voté, la majorité de l'époque et l'opposition de l'époque, à l'unanimité. Intellectuellement, aucun problème. Pendant 2 ans, vous ne foutez rien, vous signez quelques jours avant notre élection, vous signez, comme l'a dit Thierry Jean, vous signez un contrat qui va nous lier avec ces promoteurs qui n'avaient pas fait l'ombre du début de l'esquisse d'une étude sur la faisabilité économique. Vous signez, vous nous engagez pieds et poings liés avec ces promoteurs. Et il a fallu effectivement qu'on commence à travailler enfin avec eux. C'est-à-dire, je reprends le phasage, à partir de notre élection en 2009, c'est-à-dire avril 2008, pardon, mars, avril, jusqu'en septembre, octobre et novembre, nous avons travaillé avec ces promoteurs à la faisabilité économique. Et là, effectivement, nous nous sommes rendus compte que les promesses que vous avez faites, à savoir, je le répète, les 30 000 mètres carrés de commerce, les 71 000 mètres carrés de bureaux de commerce et de logements, eh bien, ne tenaient pas, tout simplement, ne tenaient pas dans les îlots B2 et B3. Et vous avez planté complètement, je suis désolé de vous le dire, l'actuelle municipalité dans un projet qui était irréaliste. Il a fallu qu'on travaille pendant 6 mois d'arrache-pied pour rattraper l'incurie dont vous avez manifesté pendant 2 ans, voire 2 ans et demi. Alors oui, Madame Collin-Stellet, on est peut-être en train de patauger, mais nous avons mis la main dans le cambouis. Nous avons travaillé sérieusement. On vous imagine mal peut-être en train de le faire. Sans doute, d'ailleurs, de patauger. Et je vous conseille peut-être d'aller patauger Place de la République. Vous verrez que, effectivement, les choses avancent. Les choses avancent. Et le maire répondra là-dessus. Contrairement à ce que vous avez dit, la Place de la République a été complètement revue. Et on l'a dit en long, en large et en travers ici, à cause du TCSP. Et c'est quand même une chose absolument essentielle. Donc, nous avons, une fois que la faisabilité économique sur les îlots B2, B3... Et il était montré, et on l'a dit d'ailleurs, il y a eu un rapport à Metz Métropole, puisque Jacques Métro, je me rappelle très bien, a commencé à dire que la faisabilité montrait un surcoût de 30% par rapport à ce qui avait été évalué. Rappelez-vous, si vous êtes de bonne foi, vous le savez. Donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire dès décembre 2008, nous avons commencé à travailler en temps masqué avec les opérateurs pour déconstruire le bel édifice extraordinaire que vous aviez imaginé. Parce que, effectivement, pendant 2 ans et demi, vous n'avez rien fait et vous n'avez pas travaillé sur le sujet. Et nous avons, avec leur accord, et d'ailleurs, je veux pas être trop long, mais avec leur accord, nous avons divisé et relancé, en temps masqué, je le disais, une consultation, par exemple, sur la halle. Il était question tout à l'heure de l'Halle, c'est M. Lebeau qui demandait si on était en train de brader l'Halle, encore une fois, contre-vérité, contre-information, le bilan du prix de la surface, le bilan du prix de la surface jaune et de vente est actualisé chaque année, par Metz Métropole, qui est le gestionnaire de la ZAC. Donc, c'est à Metz Métropole que vous pourrez, le 13 octobre, je pense, poser cette question. Et en plus, on en parlera. La Halle A2 connaît le même prix de vente de surface jaune que ce qui était prévu dans le bilan. C'est pas le lieu d'en parler ici, s'il vous plaît, Monsieur Lebeau, puisque cela relève de la compétence de Metz Métropole. Et Madame Zimmermann a complètement raison lorsqu'elle dit que c'est un scandale. Alors elle chiffre à 200 millions d'euros. Ici, on est beaucoup moins. Peut-être arrivera-t-on à 200 millions d'euros au bout des 25 ans. Elle a complètement raison de dire que c'est un scandale de voir que lorsque vous signez avec les opérateurs, vous ne leur demandez même pas un chèque de caution. Vous ne leur donnez. Eh bien, nous, on va le faire, et on le fera au mois d'octobre, monsieur Thiel. On fera ce que vous n'avez pas fait. On le fera, et vous n'avez pas demandé ce chèque de caution. Nous aurions rentré de l'argent, madame Zimmermann. Vous avez mis le doigt là où ça fait mal. Cette économie de la ZAC, nous l'avons trouvée complètement défaillante. Effectivement, la collectivité engage de l'argent, mais elle ne récupère pas de vente de surface jaune. Eh bien, nous allons le faire. Nous allons le faire en 1 an et demi, effectivement. Je vous garantis deux dépôts de permis de construire et une signature dans les semaines qui viennent. Je veux redire ici que dont non seulement la halle et la surface jaune n'est pas bradée, on le verra à Metz Métropole, que les opérateurs, on a relancé une consultation sur la halle. Il a fallu relancer une consultation avec l'accord des opérateurs qui eux-mêmes se disaient inintéressés par la halle. Enfin, certains opérateurs commerciaux. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails parce que nous, on y a passé des heures et des heures et chaque semaine, c'était pas chaque mois qu'on faisait une réunion, c'était chaque semaine et on en fait presque chaque jour en ce moment sur ce problème pour rattraper le retard que vous avez pris, monsieur Thiel, enfin votre équipe. Eh bien, La halle va sortir, on va choisir l'opérateur et on fera signer le chèque et on va rentrer de l'argent pour l'économie de la ZAC. Deuxième opération, l'îlot B2. Alors on va venir justement à cette fameuse discussion que nous avons eue lors de la commission de l'amphithéâtre. On va y venir, effectivement. Alors je regrette au passage que vous n'ayez pas cru bon d'informer vos collègues Aldrin et tous ceux qui n'étaient pas à cette commission de l'amphithéâtre, parce que pour le coup nous avons été transparents et nous avons donné les éléments de où nous en étions sur cette commission de l'amphithéâtre. Et finalement je constate que nous avons respecté à peu près la régularité de votre une fois par mois. Hein. On est tout à fait dans les occurrences de l'ancienne municipalité. Eh bien, ces îlots B2, maintenant, ont, je crois aussi, en bonne voie d'être signés, on peut aussi réserver cette annonce, comme je le disais tout à l'heure, avec les opérateurs historiques qui étaient les plus intéressés et qui ont été quelque part, il faut le dire aussi, je voudrais leur rendre hommage ici, qui ont été quelque part un peu les victimes de votre incurie. Parce que ces opérateurs historiques et les journalistes peuvent aller les voir ici et leur demander ce qu'ils
pensent. C'est pas vous qui les avez promenés dans la ville. C'est pas vous qui les avez fait venir ici.
Le portage politique.
C'est un scandale.
Absolument.
C'est
un scandale. Nul a été fait.
Même Naïm a tenu son congrès national.
Vous avez complètement défailli sur le sujet.
Devant tant de mensonges.
Vous avez complètement défailli. Bah voilà. Sans l'aveu même de Monsieur Thiel et de sa majorité, de sa défaillance. Voilà, c'est ça, Fidel Castro. Bien. Eh bien, cet îlot B2, donc ces opérateurs historiques qui, je le rappelle, souhaitaient faire leur siège social, à savoir... C'est dommage, on va bientôt plus avoir d'opposition, donc j'espère que vous allez rester quand même.
Vas-y, continue.
Non, mais écoutez, franchement... Quand on est aussi nul, on la ramène pas comme ça, quoi. Franchement, quand on a été aussi mauvais
monsieur
pendant
maire,
des années,
monsieur
quand
le maire,
on a fait perdre
non,
de l'argent
maire,
public, comme le dit Madame Zimmermann,
monsieur
très justement,
maire,
quand on a été
non comptable,
quand on est
monsieur
non comptable, s'il vous plaît, Monsieur Lebeau,
non,
quand
non,
on
non,
a
c'est
été non comptable, quand on a été non comptable, des 186 millions d'euros que la puissance publique...
C'est une injure.
Suspension de séance demandée.
On va donner la suspension de séance une seconde, s'il vous plaît. Quand l'orateur a terminé, suspension de séance. Laissez-le terminer.
Je suis un peu véhément parce que très franchement, le temps qu'on a passé, et je le répète, Madame Zimmermann, vous avez raison, l'argent public qui a été gaspillé pendant ces années, si, Monsieur Lebon nous donne des leçons sur l'utilisation de l'argent public, et alors à ce moment-là, quand on ne fait rien, on n'a pas l'outrecuidance de reprocher à l'actuelle majorité le travail que nous avons fait. Et encore une fois, je pense que, en toute transparence, vous pouvez demander sérieusement aux promoteurs ce qu'ils pensent de la manière dont le portage politique, et je le répète ici, et j'aimerais bien que tout ça soit effectivement écrit dans le compte-rendu et peut-être même dans la presse, dont le portage politique a été complètement défaillant. Donc il ne s'agit pas de crier haro sur le baudet de la SAREM ou des promoteurs, ou d'expliquer, comme M. Thiel, lors d'une des premières réunions du conseil municipal, qu'il fallait être aimé par les promoteurs, je me rappelle de cette histoire, puisqu'EFH partait. Mais pourquoi est-ce qu'EFH est parti ? EFH est parti tout simplement parce qu'il se rendait compte de la catastrophe dans laquelle on était. Et moi, j'ai revu les promoteurs d'EFH. Aujourd'hui, ils sont d'accord pour réinvestir sur la ZAC de l'amphithéâtre. Mais dans la situation dans laquelle ils étaient et dans l'incurie dans laquelle on les a mis, effectivement, ils n'étaient pas d'accord. Donc, l'îlot B2, il va sortir. Il va sortir avec Batigère, il va sortir avec Nexity, avec Lazare et avec Foncière des Régions. Je vous rappelle que et Foncière des Régions et Batigère avaient besoin de cet îlot pour construire leur siège social. Ensuite, il est question du fameux empilement commerce, bureau et ensuite logement. Eh bien, cet empilement, effectivement, il était à la source de pas mal de problèmes. Et je ne peux pas laisser dire, Monsieur Thiel, que nous n'avons pas revu profondément cette question-là. Puisque une des questions qui était posée, c'était l'impossibilité de construire les 30 000 m² de commerce, plus les 3 étages de parking. On sortait, puisque vous voulez des chiffres, on va vous en donner, à 18 000 euros la place de parking avec le cuvelage qu'on était obligé de faire sur le B2-B3. 18 000 euros le parking. Eh bien, il a fallu effectivement revoir de fond en comble, non pas les plans, puisqu'il n'y avait pas de plan, mais la manière dont cela avait été conçu lors de la précédente municipalité. Donc, effectivement, l'îlot B2 va pouvoir être sorti. Nous aurons du pied d'immeuble, hein, du commerce en pied d'immeuble, ce qui est fondamentalement différent de ce qui était proposé auparavant, même si on peut toujours dire que dans l'esprit, effectivement, c'est approchant, mais entre 30 000 mètres carrés de commerce au pied d'un immeuble sur deux étages et des commerces sur quelques centaines, quelques milliers de mètres carrés, on est quand même dans des ressemblances qui sont très, très discutables. Et puis, dernier élément, ben oui, mais j'ai pas répondu à toutes les questions qui avaient été faites, parce que là, ah non, attendez, ils ont parlé pendant des heures. Moi, je vais aussi parler pendant des heures. Ah non, 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 je ne laisserai rien passer sur ce question-là, parce que vous avez attaqué sur quelque chose où vous avez, les uns et les autres, été défaillants pour et de mauvaise foi pour les autres. La seule avec laquelle je suis d'accord, c'est Madame Zimmermann, je l'ai dit à l'instant, sur la question de... Voilà. Bon, les îlots B2, B3, les îlots B3, C3 ont été... Il a fallu travailler à la déconstruction. Thierry Jean en parlait tout à l'heure. Il a fallu travailler à la déconstruction de la fusion des 7 ou 8 opérateurs qu'avait réalisé l'ancienne municipalité. Pour ce faire, il fallait effectivement donner à ING et Absys une possibilité de voie de sortie. Cette possibilité de voie de sortie, c'est celle qu'on leur a permis de travailler sur les îlots B3, C3, sur toujours la même idée qu'ils ont toujours défendue. Ceci, on ne peut pas leur reprocher d'être très cohérent de ce point de vue-là, sur les îlots B3, C3, sur les 30 000 mètres carrés de commerce. J'étais encore il y a 2 jours et hier avec ces opérateurs à Paris pour discuter effectivement non seulement de l'après-vente de ces commerces, des questions de parking qui sont des questions importantes, mais on les verra tout à l'heure sur le PLU, et enfin de la revente de la charge foncière sur cette dalle qu'ils sont en train d'une certaine manière de construire. C'est une opération compliquée, nous y travaillons tous les jours. Là, on est beaucoup moins sûr de pouvoir signer, mais on a donné les dates du 31 octobre pour arriver à la conclusion de quelque chose sur ce sujet. Peut-être un mot pour Denis Jacquat quand même, puisqu'il a eu la gentillesse de rappeler le bâtiment qui n'appartient pas à la SNCF, mais à RFF. Et c'est ça le problème. Oui, ah ben oui. Mais là, c'est pareil, monsieur Jacquat, monsieur le député, c'est pareil. Il aurait fallu mettre cet ensemble-là dans la ZAC. Pourquoi ça n'a pas été fait? Il aurait fallu commencer à discuter avec RFF la session. C'est nous qui avons commencé à le faire. Nous sommes en train de négocier avec eux. Il aurait fallu faire tout le travail qui n'a pas été fait. Trouver des promoteurs hôteliers que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce qu'effectivement, si Pompidou est un vrai succès, le risque qui existe, c'est qu'il n'y aura pas assez d'hôtels à Metz pour accueillir tout ça. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et une des configurations qui nous a été proposée est de mettre dans la halle, effectivement, un hôtel et dans l'îlot B2, aussi un hôtel. Le bâtiment qui sert en fait à nettoyer, je vous le dis, monsieur Jacquat, qui sert en fait à nettoyer les TGV, sera masqué. Nous sommes en train de discuter là aussi avec la SNCF sur ce, et il sera masqué pour l'inauguration de Pompidou. Quand je dis sera masqué, il existera toujours, mais il sera habillé. Ensuite, évidemment, les abords de Pompidou, puisque vous étiez inquiet sur ce sujet, les abords de Pompidou seront terminés, j'en prends l'engagement ici, au moment de l'inauguration de Pompidou, et ça, effectivement, vous pouvez le noter. Enfin, un dernier point, puisque le maire me presse de conclure. Monsieur Lebeau, il se trouve que nous étions avec le maire dans le cadre de l'ELA Plus il y a quelques jours, avec le maire de Hesch. Savez-vous ce qu'elle nous disait sur cette magnifique ZAC dont vous parlez? Elle nous disait qu'elle connaissait les premières difficultés des commerçants qui déposaient le bilan. Alors si c'est ça ce que vous appelez une opération exemplaire de ZAC, bravo monsieur Lebeau pour votre vraie capacité d'analyse.
La suspension de séance est accordée. Non, non, monsieur Lebeau, la suspension de séance est accordée. Vous pouvez vous sortez. Il y en a. Vous avez combien de minutes? 3 minutes, ça vous va? 3 minutes. 5. Alors 5 minutes. Reprendre place. Merci de reprendre place. Non, c'est moi qui ai la parole maintenant, monsieur Aldrin.
Je vous la demande.
Vous m'excuserez, mais c'est moi qui donne la parole et pour l'instant, c'est moi qui la donne, c'est le point est terminé.
J'ai encore des trucs à dire, d'ailleurs.
Alors, écoutez, merci de...
Pas méchant, mais... Je cherchais l'incident.
Je voudrais conclure ce point, d'abord pour rendre hommage à 3 acteurs essentiels de la... Oui, docteur.
C'est très bien le règlement du Conseil municipal. Vous savez parfaitement pourquoi on a demandé une suspension de séance. Donc après une suspension de séance, habituellement, la parole est toujours donnée par le maire aux personnes qui l'ont demandé pour une précision. Donc monsieur Aldrin, au nom des deux groupes, va parler.
Alors allez-y. C'est vous qui avez demandé la suspension de séance, docteur.
Monsieur le maire, ce débat sur l'amphithéâtre ne s'est pas déroulé dans... cadre d'une démocratie apaisée telle que nous pouvons le souhaiter. Il y a eu les propos de votre premier adjoint qui ont été insultants à l'égard du président de groupe Patrick Thiel. Et au nom des deux groupes, nous vous demandons des excuses publiques sur les propos qui ont été tenus.
Je vous remercie de votre déclaration. Je prends donc maintenant la parole.
Bon, bah, c'est comme ça, allez, hop.
Pour féliciter les acteurs de ce chantier extraordinaire que constitue le chantier Pompidou. Je veux parler d'Antoine Fonté et de Richard Lyogé et Thierry Jean qui ont fait un travail exceptionnel depuis 18 mois pour sortir le dossier de la ZAC de l'amphithéâtre de la situation où il se trouvait. Vous avez entendu tout à l'heure 2 exposés extrêmement complets et techniques de les adjoints Thierry Jean et Richard Lyogé. J'avais l'intention de répondre à un certain nombre de points qui n'ont pas été abordés, mais je ne le ferai pas puisque manifestement ça n'intéresse personne. La démocratie a horreur de la chaise vide. Je le dis pour ceux qui sont encore là. Et on est toujours perdant quand la chaise est vide. Et oui, Madame Zimmermann, vous avez raison, vous le savez très bien. Et...
Restez avec vous, Madame.
Et croyez-moi, ici, je sais de quoi il s'agit. J'ai très bien entendu tout à l'heure Richard Lyogé. Et je sais très bien ce que c'est que d'être maltraité dans un conseil municipal. Et j'y suis depuis 1983, je ne suis jamais parti. Voilà. Alors, écoutez, on va pas répondre, mais je vais quand même dire.
Ça va aller vite, hein,
je vais quand même dire, puisque la presse est là, et puis finalement, elle fait son travail, elle n'a pas décidé de partir. Je vais quand même dire que le travail qui a été fait par les 2 personnes qui ont pris la parole est un travail tout à fait exceptionnel. Nous sommes en train de sortir ce dossier de l'ornière. Je voudrais ajouter qu'un certain nombre de points qui relevaient de la communauté d'agglomération ont été repassés à la ville de Metz. C'est la problématique de la bibliothèque. C'était abordé par Mme Zimmermann. Et nous verrons comment nous allons gérer cette problématique-là, mais il n'est plus question pour la communauté d'agglomération de Metz Métropole de faire une grande bibliothèque au voisinage, une grande médiathèque au voisinage du centre Pompidou. Et donc, s'il doit y avoir des investissements dans le domaine de la lecture publique et dans le domaine de la médiathèque, c'est la ville de Metz qui s'en occupera, et à ce moment-là, nous définirons une politique et une stratégie qui est liée à notre territoire urbain et non pas un projet d'agglomération comme c'était le cas au départ. C'est une première information que je veux donner. La seconde information que je veux donner, c'est qu'effectivement, le Palais des Congrès est un enjeu essentiel. Ce Palais des Congrès n'est pas encore décidé par Metz Métropole. Il n'empêche que maintenant, sur le plan des principes, les responsables de l'agglomération, avec ceux de la ville de Metz, d'ailleurs tous ensemble, y songent tellement sérieusement qu'on l'a fait inscrire au contrat de redynamisation des sites de défense.
C'est-à-dire que nous allons inscrire des crédits rapidement dès que nous aurons validé ce contrat de redynamisation des sites de défense. Et nous avons également des engagements de la Chambre de commerce et d'industrie pour participer au capital. Si bien que notre problématique maintenant est d'étudier un projet qui, sur le plan de l'investissement, serait coûteux pour la collectivité, mais avec les subventions dont j'ai parlé, mais qui serait équilibré sur le plan du fonctionnement. L'objectif est de réaliser, avant la fin de notre mandat, ce palais des congrès, de façon à donner un outil économique très important à l'agglomération. Ce palais serait extrêmement bien placé, puisque juste à l'arrière de la gare, et pas exactement à l'endroit où il avait été placé initialement d'ailleurs, ça a été un peu modifié, et ce palais maintenant a de fortes chances de se faire, et nous sommes en discussion avec la SNCF sur la gestion de l'arrière de la gare et des espaces, je dirais, d'intermodalité, puisque ce sont des espaces stratégiques dans ces circonstances. Nous avons l'ambition de faire un pôle d'activité économique et bien sûr hôtelier, comparable à ce qu'on peut trouver à Lille ou à Lyon, où des projets ont été construits autour des gares et se révèlent extrêmement performants. Voilà ce que je voulais dire sur le plan de des projets. Et je voudrais dire enfin que il ne s'agit pas de modestie, hein, mais je n'ai jamais vu à Metz une stratégie moyen-long terme aussi bien étudiée qu'en ce moment par rapport à notre problématique de développement. Cela se fait grâce à l'Agence de développement économique. Je rappelle que Thierry Jean est à la fois le vice-président de la communauté d'agglomération chargé du sujet et l'adjoint au maire ici chargé du même sujet. Et en ce qui concerne l'urbanisme, vous avez compris que Richard Lioger connaissait très bien le sujet parce qu'il y travaille d'arrache-pied et qu'il y travaille d'arrache-pied en me rendant compte régulièrement, et cela depuis qu'il est arrivé. Alors quelquefois on a voulu le dépeindre comme étant un dilettante. Méfiez-vous de Richard Lioger, parce que vous avez compris aujourd'hui qu'il connaissait ses dossiers par cœur et sur le bout des doigts. Et je voudrais lui rendre hommage parce que c'est un peu facile de brocarder des gens. On attendra au résultat. Voilà. Et je vous donne rendez-vous à la signature de ces conventions que personne n'a réussi à obtenir avant. Je voudrais enfin ajouter un point, parce que ça me touche, c'est que, effectivement, Mme Zimmermann a parlé de boulevard de l'avenue de la Seille, là. Effectivement, il y a une problématique avec un boulevard. Il y a deux ponts à faire, un pour le TCSP, un autre pour ce boulevard. C'est Metz Métropole qui s'en occupe. Il y a toute une partie qui appartient quand même à la ZAC. Hein, c'est dans la ZAC, absolument. Et derrière, il y a encore une trémie pour pouvoir rejoindre le secteur du garage Renault et du boulevard, comment il s'appelle, le boulevard de l'Est, la voie rapide Est. Tout cela est parfaitement étudié et on avance. Enfin, s'agissant de la place de la République, je voudrais rappeler que, accessoirement, le projet a changé de la façon suivante. Il n'y aura plus d'automobile du tout, place de la République, premièrement. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Deuxièmement, il n'y aura plus d'automobiles qui monteront par la rue du juge Michel. Il y en a qui descendront, mais il n'y en a pas qui monteront. Troisièmement, il n'y a plus de trémie d'entrée dans le parking. Et il y a des gens qui croient que le projet n'a pas changé. En fait, le projet a radicalement changé parce qu'il va être exclusivement réservé à l'espace humain, à l'espace de déambulation et avec les terrasses, etc. Vous voyez d'ailleurs maintenant apparaître la taille énorme de ce mail qui va être devant les immeubles. Hein, planté d'arbres, où il y aura exclusivement des accès le matin pour les livraisons. Hein, et tout ça, effectivement, a changé, puisqu'il n'y aura au milieu que des transports en commun, pour l'essentiel, le transport en commun site propre. Voilà ce que je voulais dire pour compléter l'information générale. Et je mets le point aux voix. Y a-t-il des personnes qui s'opposent,
à l'unanimité.
qui s'opposent à l'approbation du compte-rendu financier annuel et des participations de la ville à l'opération de la ZAC de l'amphithéâtre? Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie.